Un nouveau rendez-vous avec la littérature, comme chaque mercredi à 21h sur Radion, voici Wagon Livre. Et ce soir, nous accueillons un jeune auteur, il a 40 ans, depuis quelques mois. Il signe aux éditions Jean-Claude Nattès son 4e roman.
C'est ça.
Et ce roman a pour titre « Le tennis est un sport romantique ». Et j'accueille avec beaucoup de plaisir Arnaud Friedman. Bonsoir Arnaud Friedman.
Bonsoir Yannick.
Est-ce que je peux, dans un premier temps, vous demander de vous présenter un peu à nos auditrices et auditeurs, de retracer votre parcours dans ce monde compliqué, ardu de la République des Lettres, où il faut faire sa place, une place que vous faites de mieux en mieux, puisque vous êtes édité cette année chez Jean-Claude Nattès. Alors il y a eu les éditions de La Martinière, il y a eu les éditions de La Boucle, puis il y a eu même les éditions Gunten à une époque.
Oui, mais j'ai toujours écrit, j'ai toujours aimé l'écriture, eu envie d'écrire, et à partir de 18 ans, je me suis mis à écrire ce qui ressemblait à des romans que j'ai retravaillés, et puis progressivement, j'ai soumis ces textes à des maisons d'édition. Alors on commence toujours par Gallimard, Grasset dans un premier temps, et puis ensuite, j'ai eu des contacts avec une maison d'édition basée en Franche-Comté, mais qui faisait de la littérature générale, les éditions Gunten, qui m'ont édité deux romans. Puis ensuite, j'ai eu la possibilité d'être édité aux éditions La Martinière, qui était une maison d'édition nationale, et qui a interrompu ensuite la collection de romans qu'il venait de lancer. Donc j'ai eu à nouveau la chance de travailler avec une maison d'édition basée en Franche-Comté, puisque je suis moi-même originaire de Franche-Comté, les éditions de La Boucle pour La Boucle du Doubs. Et cette maison d'édition m'a publié deux romans à moi, qui ont un petit peu, que j'ai pu faire lire à des amis auteurs, à d'autres éditeurs. Et c'est comme ça que j'ai suis entré en contact avec l'éditrice de chez Jean-Claude Nattès, qui m'a dit de lui faire passer un manuscrit. Et d'ailleurs, en parfait accord avec mon éditeur de La Boucle, je lui ai envoyé un manuscrit le 27 décembre de l'année dernière. Et le 8 janvier, elle m'a appelé pour me dire qu'elle le publiait pour cette rentrée.
Alors, être publié dans une maison d'édition parisienne du 6e arrondissement, c'est une montée en puissance dans l'univers de l'écriture qui réjouit, j'imagine, mais qui aussi peut faire peur, parce qu'on attend ensuite toujours d'autres romans de qualité égale.
Oui, alors je suis franc-comtois, je travaille en Lorraine, j'ai travaillé 4 ans en Bourgogne, dans Lyon plus précisément, donc je suis très attaché à ma vie en province ou à ma vie de provincial, mais c'est vrai qu'on peut pas nier que quand on se rend pour signer le contrat ou quand on sort d'un rendez-vous avec l'éditeur et qu'on est dans le 6e arrondissement qui est connu pour être le cœur français du monde des lettres, où on ressent une petite fierté, il y a un petit pincement au cœur en se disant je suis assez heureux de faire partie de ce cénacle, on peut dire.
Alors Arnaud Friedman, avec ce tout dernier roman, dont je rappelle le titre formidable, « Le tennis est un sport romantique » aux éditions Jean-Claude Nattès. Alors voilà qu'avec ce roman, Arnaud Friedman, vous revenez sur les années 80 dans un premier temps. Ça nous permet aussi pour nous qui avons 40 ans de revoir avec un peu de nostalgie et de réentendre à la fois dans votre roman, quand on le feuillette, des musiques, des chansons de l'époque, des émissions de télévision de l'époque, et surtout l'univers tennistique, puisque le roman commence par une scène de télévision. En fait, la télévision est très présente, l'image est très présente, et l'adjectif cinématographique est présent à plusieurs reprises dans votre roman.
Oui, alors c'est évidemment pas un hasard, puisque les deux personnages qui sont présentés dans le roman, Julien et sa mère Hélène, sont deux personnages qui rêvent leur vie. Ils la rêvent, d'où le côté cinématographique ou romantique qui revient dans le titre. Puis ils la rêvent aussi par l'intermédiaire de l'écran de télévision, et c'est pour, comme vous le soulignez justement, le roman s'ouvre sur un match diffusé à la télévision dans le salon d'une petite ville de province, dans le salon d'une ville de Besançon, un petit F2 où une mère célibataire et son fils regardent la télévision. Et donc il y a effectivement un impact très fort de la télévision qui rentre dans les foyers et qui diffuse. Alors j'ai voulu traiter sur le même plan ce qui sort de la télévision et qui nourrit les rêves des deux personnages. Vous avez à la fois évidemment les plus présentes par rapport au titre et par rapport au sujet que je voulais traiter, des matchs de tennis, mais également traiter de la même manière, ce qui crée un petit décalage humoristique, les résultats d'élections présidentielles, la révolution en Roumanie, tous des éléments qui rythment les années 80 et 90, et puis évidemment des clips qui déferlent avec, on s'en souvient, pour certains, pour d'autres, il faudrait mieux ne pas s'en souvenir, mais on s'en souvient quand même, je pense au clip Boys, Boys, Boys de Sabrina, voilà, qui a pu marquer un peu les esprits des plus jeunes dans ces années-là. Voilà, je voulais montrer comment ces deux personnages qui rêvent leur vie sont un petit peu captifs de ce qui est diffusé par la télévision.
Votre roman commence en fait par une scène d'aveu.
Oui, la fin
qui
du
lui
premier
donne
chapitre.
Une charge, on pourrait dire, presque tragique, comme dans certaines tragédies, il y a une scène d'aveu.
Voilà, une scène d'ouverture qui est une scène d'aveu, puisqu'à la fin du premier chapitre, je n'aime pas particulièrement révéler la fin des livres, mais là il faut quand même bien qu'on l'évoque, à la fin du premier chapitre où on a vu Lendl battre McEnroe dans un match à suspense, qui là encore offre un suspense en parallèle à ce qui se passe dans le petit salon d'Hélène et de Julien. À la fin du match, Hélène, qui, elle, avait pris fait et cause pour McEnroe, dit à son fils, mais tu comprends pas que tu as soutenu Van Lendl et que John McEnroe, c'est ton père.
Donc, ce match à la télévision, qui est retransmis en direct, donc, a lieu le 10 juin 1984. Le petit Julien, le héros, a 5 ans à ce moment-là, et donc il apprend, devant un écran de télévision, quelque part, qu'il est le fils de John McEnroe.
C'est ça.
Et évidemment, il va grandir avec ce père absent, hein, ce père en fait bien évidemment qui n'est physiquement pas présent dans ce petit appartement très modeste du centre-ville de Besançon, père omniprésent dans la tête, mais grand vide dans son existence, avec une mère qui est en dessous de tout, enfin dépressive, sans emploi, c'est même pas elle qui paye le loyer de l'appartement, ce sont ses parents. Elle est, on peut dire, complètement à côté de la plaque. C'est une sorte d'Emma Bovary, quelque part, un peu des années 80-90.
Oui, alors pour le personnage de la mère, effectivement, c'est une bonne comparaison, outre qu'elle est extrêmement flatteuse. Mais c'est un personnage qui rêve sa vie. Elle a eu une illumination amoureuse le jour où elle a croisé John McEnroe dans un tournoi à la fin des années 70 aux États-Unis. Et elle ne s'est jamais remise de cette rencontre, de ces quelques minutes où elle a croisé John McEnroe, où elle a vécu ou pense avoir vécu une nuit d'amour également ensuite avec John McEnroe. Elle attend le retour de John McEnroe, elle se laisse complètement aller, elle ne fait plus rien d'autre, elle ne s'occupe plus de son fils. Et pour son fils, c'est justement, il se crée un père absent, mais qui est omniprésent, alors que sa mère, qui est physiquement présente dans l'appartement, n'est pas là pour lui. Donc il y a une réflexion sur parent présent, parent absent, parent fantasmé et parent réel.
Nous retrouverons Arnaud Friedman dans une poignée de minutes. Nous reviendrons sur son roman « Le tennis est un sport romantique » disponible chez vos libraires aux éditions Jean-Claude Lattès. Nous marquons une première pause et nous vous proposons d'écouter justement le titre d'une chanson dont il est question dans votre roman, Arnaud, c'est « The Promise You Made » de Cock Robin sur Radio Excellence Soirée. On se retrouve dans quelques minutes avec Arnaud Friedman, notre invité.
Would you carry me with you to the
Devant les micros de Radion, et si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes à bord de votre émission littéraire, c'est Wagon Livre, comme chaque mercredi depuis novembre 2010. Nous sommes ce soir en compagnie d'Arnaud Friedman, jeune homme de 40 ans, qui nous présente son roman intitulé Le tennis, est un sport romantique. Il est donc notre invité, nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Arnaud Friedman, cette histoire de père fantasmé dans la tête de la mère et dans la tête du garçonnet, encore que c'est plus un problème pour la mère, puisque le père n'existe qu'au travers des retransmissions télévisées des matchs de tennis. Et elle est en souffrance à chaque fois de voir celui qu'elle considère comme étant le père de son fils, souvenir ancien d'une année passée aux États-Unis comme jeune fille au père.
Oui, il y a une réflexion sur la fidélité au rêve qu'on a, au rêve de l'adolescence. Et évidemment, dans le cas d'Hélène, cette fidélité est poussée à son terme et jusqu'à l'absurde, puisque à partir de... c'était une jeune fille qui, on dit, partait bien dans la vie, qui fait une année de jeune fille au père en 1978 dans une famille américaine, républicaine,
qui n'a pas voté
bien pensante,
pour la réélection
qui n'a pas voté pour Roosevelt. C'est le seul État, le Maine, qui n'a pas voté pour la réélection de Roosevelt, je crois, la dernière de ses réélections, puisqu'il a été élu trois fois. Et donc, Hélène, voilà, partait plutôt bien dans la vie, elle est jeune fille au père, et puis là, elle tombe amoureuse de John McEnroe, et d'une manière un peu inexplicable, elle va rester comme un arrêt sur image, elle va ne pas réussir à se décoller de ce sentiment amoureux. Elle rentre chez elle, on ne sait pas trop ce qu'elle fait jusqu'en 1984, où on la découvre avec son fils, et elle se laisse porter par... les hauts et les bas de la carrière de McEnroe, sachant qu'elle est là de plus en plus de bas, et que tant que McEnroe va jouer, elle va être dans cette espèce d'état dépressif ou végétatif.
Alcoolisée un peu,
voilà,
avec des médicaments, une mère, on peut dire, dans l'incapacité totale d'élever un enfant.
Élever un enfant, mais dont la seule chose dont elle se rend compte, peut-être que si elle ne s'en était pas rendue compte, elle aurait réagi autrement, mais elle se rend compte que son fils a une certaine force, puisqu'il est capable de se trouver tout seul des familles de substitution. Alors évidemment, il trouve un appui auprès de ses grands-parents, mais il va aussi se faire héberger par la famille de la petite fille dont il est éperdument amoureux en CM2, et puis dans la famille de son meilleur ami qui, quelques soirs dans la semaine, comme ça, lui offre des foyers de substitution. Donc il a à la fois un père fictif, auquel il rêve de ressembler alors que tout l'en éloigne, et puisqu'il est évidemment droitier, il est évidemment très peu doué pour le tennis, il a un caractère extrêmement... du moins quand il est jeune, extrêmement doux et respectueux des arbitres, c'est-à-dire tout le contraire de McEnroe, qui était connu pour ses colères légendaires et son caractère atroce. Et voilà, il va malgré tout trouver une force pour se construire un univers à lui, mais en restant fidèle à ce que lui a dit sa mère, sa manière de tisser le lien mère-fils, fils-mère, c'est de ne pas remettre en cause ce que sa mère a dit et de rester fidèle à elle aussi. Et plus le roman avance, plus, d'une certaine manière, et malgré toutes ces difficultés, ils vont quand même se retrouver et autour de ce lien un peu absurde de la figure de McEnroe.
On a le sentiment que le jeune Julien est plus le fils du tennisman que le fils de sa mère.
Exactement, quand j'ai écrit le roman, c'était vraiment l'idée de départ. Et puis en avançant, c'est devenu un petit peu plus complexe au niveau de la psychologie des personnages, puisque j'écris toujours de la même manière, c'est-à-dire que je n'ai pas de plan. Je pars d'une idée et puis les personnages se développent progressivement et quelquefois un peu à mon insu. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, plus les personnages prenaient de l'épaisseur, plus on avançait dans le roman, plus il y avait autre chose à creuser et qui est la contre-révélation de la scène finale qui change, puisqu'il n'y a pas un coup de théâtre, hein, mais voilà, qui installe une petite réflexion sur ce qui s'est tissé dans la vie de ces deux personnes, Hélène et Julien.
Alors, on peut dire quelque part que Julien est plus dans la quête du père. C'est un peu un roman sur le thème de la quête du père. Plus un roman, alors que ce n'est pas vraiment un roman sur la relation mère-fils, parce qu'il n'y a pas vraiment de relation mère-fils. Il y a une sorte de presque amour-répulsion entre Julien et sa mère. Enfin, c'est peut-être pas complètement vrai ce que je dis, c'est peut-être à nuancer.
Alors, il n'y a pas de...
C'est un peu un je t'aime, moi non. Enfin, on ne sait pas trop quel est
J'assène pas de vérité. J'aime bien laisser aussi au lecteur le choix de se faire une opinion sur ce qui perçoit des liens entre les personnages. Le livre est sorti le 28 août, donc je commence à avoir quelques retours et quelques lecteurs qui me donnent leur avis ou journalistes, comme vous le faites, sur ce qui les a le plus marqué. Certains insistent sur le fait qu'il s'est créé malgré tout une relation entre la mère et le fils. D'autres pensent que, comme vous semblez plus le souligner, voilà, ce lien est manqué et que c'est la relation au père qui importe. Et c'est effectivement, moi, les thèmes qui me portent, c'est les thèmes sur lesquels j'aime écrire, c'est voilà, de quelle manière on se construit un lien d'enfant, un lien de parent, et comment on se construit par rapport à la figure des parents, soit la figure des parents réels qu'on doit supporter, ou soit la figure des parents fictifs qu'on s'invente.
Il ne me semble pas, dans le roman, je rappelle le titre, hein, le tennis est un sport romantique, donc Arnaud Friedman, qui est notre invité ce soir, et c'est aux éditions Jean-Claude Lattès, Arnaud, il ne me semble pas que la mère câline ou embrasse son fils. En revanche, la relation entre la mère Hélène et le jeune Julien, la relation, elle tient à un secret, finalement. Et le témoin de ce secret, c'est aussi la télévision qui trône au milieu du salon de ce petit appartement modeste du centre-ville de Besançon.
Effectivement, comme vous dites, elle tient à un secret, et un secret dont, même s'il ne le dit pas, le petit garçon pense tout de suite qu'il pourrait être un mensonge. Il le pense assez vite, en tout cas, mais ne le remet pas en cause. Donc il tient sur un secret qui est sans doute un mensonge, donc ça ajoute une deuxième dimension. Mais à part ce secret, effectivement, il n'y a rien qui lie le fils et la mère, puisqu'elles sombrent voilà, dans la dépression, et lui s'évade dans d'autres familles. Donc je voulais aussi montrer comment cette toute petite chose qui les relie, cette seule dernière chose qui les relie, le secret, malgré tout, ils réussissent à ne pas faire casser ce tout petit fil. Et quand après la mère va sortir de sa dépression, d'ailleurs quand McEnroe va arrêter sa carrière, puisqu'elle se rend compte que elle n'a plus à attendre de le voir jouer, elle n'a plus à attendre qu'il gagne des tournois, attendre qu'il reste ou qu'il essaie de redevenir le meilleur joueur du monde. Et là, elle sort un peu de son état dépressif, dans une sorte d'ultime sursaut possible. Et elle va un peu mieux et ils reconstruisent leur relation qui n'a pas lâché juste par ce petit fil du secret.
Alors, il est vrai que le fait que McEnroe prenne sa retraite permet à Hélène, quelque part, même aussi de rencontrer des hommes. Enfin, elle a un compagnon, Henri. Bon, en plus, elle n'a pas vraiment de chance. Le pauvre, suite à un accident de moto, il ne peut plus avoir d'érection. Donc, c'est vrai qu'il y a des aspects dans votre roman qui nous font aussi énormément sourire. On a l'impression, justement, que la fatalité aussi pour Hélène, quelque part, c'est d'avoir une vie, pardonnez-moi l'expression, j'allais dire, merdique.
Oui, c'est...
Alors, elle n'a pas de chance, quoi.
Non, effectivement, j'ai voulu, et c'est assez difficile, parce que mes précédents romans n'avaient pas cette dimension humoristique. J'ai voulu, voilà, il y a une forme de tendresse amusée sur les personnages, qui n'ont pas des vies faciles. On peut dire que vous dites qu'Hélène a une vie merdique, ça me semble un bon adjectif, même s'il n'est pas, très courant des émissions littéraires. Mais voilà, il faut le dire, elle a une vie qu'on peut considérer comme merdique, mais elle est effectivement, par contre, elle subit, c'est-à-dire qu'à part l'instant où elle cherche à sortir de dépression, elle appelle à elle, si vous parliez de Fatoum et de destin, elle appelle à elle un destin négatif, parce qu'il est évident que ce n'est pas en restant dans son salon en alignant les verres de whisky et les cigarettes que vous pouvez vous construire une existence et en attendant de voir surgir de la télévision joueur de tennis qui, avec les années, devient de moins en moins connu et donc est de moins en moins filmé et diffusé à la télévision. Effectivement, c'est pas la meilleure manière de se construire une existence autre.
On n'est d'ailleurs pas certain qu'elle croie énormément en l'avenir tennistique de son fils Julien.
Non, elle voit bien son fils Julien et n'a pas du tout les dons de son père, ou de son père supposé. Elle le regarde jouer comme elle verrait un étranger, un gamin qui, sa plus grande surprise, grandit, et comme il fait beaucoup de sport, devient musclé, devient un beau jeune homme très musclé. Elle s'étonne plusieurs fois, elle se dit, tiens, mais c'est mon fils. Elle a une surprise par rapport au fait que son fils continue à grandir, et c'est peut-être aussi, ça, on ne va pas psychanalyser les personnages, mais voilà, ce qui à un moment lui permet, puisque quand McEnroe arrête sa carrière, Julien est adolescent, elle se rend compte que son fils a grandi, et donc c'est une scène où elle le regarde jouer à l'entraînement, et voilà, c'est aussi peut-être ce qui participe du fait qu'elle parvienne à sortir de sa dépression.
Dans le roman, le narrateur dit « Julien réussira mieux qu'elle ». Mais quelque part, c'était pas très difficile de mieux réussir que cette femme dépressive, alcoolisée, et qui effectivement est sans emploi et dont le loyer est payé par ses parents.
Oui, alors c'est effectivement c'est le narrateur qui le dit, mais il le dit depuis l'esprit d'Hélène. Donc c'est Hélène qui se rend compte que finalement elle a réussi à mettre au monde un fils, et c'est peut-être ce qu'elle a fait de mieux, qui s'en sort, qui réussit à se construire une vie dans son club de tennis favori, avec un meilleur ami, une petite amie fantasmée également, mais puis avec laquelle il va finir par nouer une relation. On va pas décrire, mais qui est aussi la traiter sous forme un peu ironique.
Absolument. Alors écoutez, on se retrouve dans une poignée de minutes. Pour l'heure, un titre auquel il est fait référence dans le roman de notre invité. On écoute Casser la voix, et c'est Patrick Bruel, bien sûr, hein, Patrick, comme à une certaine époque. Cet extrait de l'album Alors Regarde, et c'était Arnaud Friedman en 1989. Bonne soirée sur Radion, c'est Wagon Livre, donc ce soir avec le tennis, c'est un sport romantique, et son auteur Arnaud Friedman en notre compagnie jusqu'à 22h.
Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer tout seul. Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer chez moi. Si ce soir, j'ai pas envie de fermer ma gueule. Si ce soir, j'ai envie de me casser la voix. Casser la voix! Casser la voix, casser la voix, casser la voix. Je peux plus croire tout ce qui est marqué sur les murs. Je peux plus voir la vie des autres, même en peinture. Je suis pas là pour les sourires d'après. Si ce soir j'ai envie, casser la voix, casser la voix, casser la voix, casser la voix. Les amis qui s'en vont et les autres qui restent, se faire prendre pour un con par des gens qu'on déteste, et mon pire vous manquer. Et le temps qui se perd entre des jeunes usés et des vieux qui espèrent, et ces flashs qui aveuglent à la télé chaque jour, et les salons qui bonnent la couleur de l'amour, et les journaux qui traînent comme je traîne mon ennui, la peur qui est la mienne quand je me réveille la nuit. Casser la voix, casser la voix, casser la voix, casser la voix. Son lit
soir. J'ai pas envie de rentrer tout seul. Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer chez moi. Si ce soir, j'ai pas envie de fermer ma gueule. Si ce soir, j'ai envie de me casser.
Casser la voix, c'était Patrick Bruel. Heureusement, notre invité ne s'est pas encore cassé la voix, et heureusement, car nous allons poursuivre l'entretien qu'il nous a accordé à l'occasion de la sortie de son dernier roman. Le tennis est un sport romantique que vous pouvez, et j'espère que vous allez vous le procurer après avoir écouté cette émission, vous allez vous le procurer en librairie, et c'est un roman disponible aux éditions Jean-Claude Lattès. Arnaud Friedman, Casser la voix, Patrick Bruel... Il en est question dans le roman, en arrière-fond. Ça vous a marqué aussi dans votre adolescence, Casser la voix ?
C'est une des chansons, oui. Alors, on ne peut pas dire, moi, je n'étais pas particulièrement fan absolu de Patrick Bruel, comme certaines jeunes filles ont pu l'être. Mais c'est vrai que c'est une chanson qui, à l'époque où, on était, où j'étais moi-même adolescent, voilà, diffusait des idéaux, des idées de révolte ou de rébellion. Et c'est sûr que pour un adolescent, c'est des choses qui parlent. Et donc, j'ai repris cette chanson en écho. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pioché dans le répertoire des années 80 et 90. Alors, pas toujours des chansons musicalement les plus abouties, mais voilà, celles qui ont marqué. On parlait tout à l'heure du fameux Boys, Boys, Boys de Sabrina. Il y a la chanson... Alors, il y en a certaines que j'aimais bien.
Il y a une chanson de Ricky Martin, Un, Dos, Tres, Maria.
Voilà, alors qui rythme le parade amoureuse de Julien quand il a 18 ans auprès d'une jeune fille qu'il convoite. Donc il s'approche et recule d'elle en écho à la chanson de Ricky Martin. Il y a une chanson que j'ai fait une allusion à une chanson que je trouvais vraiment magnifique qui était Black, Wonderful Life de Black, qui est une chanson qui m'a beaucoup plu. Voilà, il y a quelques disons que, évidemment la musique n'est pas le sujet principal du film, mais ça donne une coloration à ces années 80 et pour ceux qui ont vécu dans ces années-là, il y a une petite nostalgie à la fois à l'évocation des matchs, puisqu'il y a beaucoup de gens qui regardent encore, mais Roland Garros l'été, quand c'était sur les deux chaînes, France 2 et France 3, je me souviens. Voilà,
Antenne 2, FR3, vraiment à l'époque.
Exactement, on était tous voilà, devant, en zappant d'un écran à l'autre. Il n'y avait pas Internet, c'était vraiment une autre époque. C'est-à-dire qu'il n'y avait que la télévision pour suivre les résultats des matchs. Et tout le monde passait son printemps à regarder Roland Garros. Ceux qui étaient étudiants se disaient qu'ils allaient attendre la fin du jeu, puis la fin du set, puis la fin du match pour réviser, et à la fin ne révisaient pas. Donc voilà, effectivement, ça c'est les retours des lecteurs qui me disent il y a vraiment, voilà, on est dans les années 80 et on y est par le tennis et par cette petite toile de fond musicale voilà, que vous évoquiez, dont fait partie Casser la voix.
J'aime beaucoup dans votre roman, bien sûr, l'intrigue, le personnage de Julien qui est touchant parce qu'on est finalement avec Julien dans l'ambiguïté, dans cette quête du père, mais qui est une quête plus intellectualisée que, j'allais dire, pratique. Hein. Il ne mène pas l'enquête, il ne fait pas des recherches profondes pour essayer de contacter le père. Il est dit, page 159 dans votre roman, à propos de Julien, donc le jeune homme, il s'est toujours estimé victime d'avoir Hélène et John pour parents. Voilà donc un enfant victime de l'identité de ses parents, de ce qu'ils sont. Et je me demande quelque part, nous sommes tous victimes de ce que sont nos parents.
Oui, voilà, vous mettez le...
Victime
le,
consentante.
Vous mettez le sur le sujet de mes romans, c'est comment on gère sa vie avec les parents qu'on a, ou comment on imagine autrement, ou comment on rêve, et pourquoi on le fait. Et effectivement, c'est tout à fait le cas de Julien, qui a une mère absente et un père absent aussi, mais qui s'invente. Donc, on est dans cette réflexion sur qu'est-ce que j'ai fait pour avoir des parents comme ça, qui est également une grande question des périodes de l'adolescence. Et voilà, au moment où Julien se pose cette question, je crois que c'est lors de sa rentrée au collège. Où
parce qu'il se pose le problème quand il écrit, il remplit les fiches et il écrit Julien Belot et il hésite avec Julien McEnroe.
Sa première impulsion, c'est d'écrire Julien McEnroe et il se dit, mais si j'écris Julien McEnroe, tout le monde va se moquer de moi. Et donc, il y a aussi ce rapport au cours du collège, on a toujours la sensation d'être que les autres sont plus dans la normalité que nous. On a l'impression qu'il y a une masse d'autres élèves qui sont la normalité et que ça, c'est quelque chose que tout le monde a. Ce qui montre bien que la normalité, elle n'est nulle part. Enfin, elle est dans ce qu'on suppose des autres.
Étonnamment, l'enfance et l'adolescence de Julien évoluent et se construisent autour de l'absence du père et non pas autour de la présence du père.
Oui, oui. D'ailleurs, vous l'avez dit, il préfère, je pense, avoir un père absent qu'il peut imaginer que de se poser véritablement les questions sur son père. Il lui serait assez facile d'interroger sa mère sur McEnroe, peut-être assez facilement d'arriver à mettre en défaut la révélation qu'elle lui a faite le soir du 10 juin 84. Mais il ne le fait pas, il se construit et quelque part, je pense qu'il assume de se construire avec l'image d'un père inventé, avec l'image d'un père rêvé. Et jusqu'à la fin, il ne va pas vouloir remettre ça en question. Et à la fin, il décide que, quoi qu'il arrive et quoi qu'il a appris, il restera dans sa tête le fils de John McEnroe.
On s'amuse beaucoup à certains moments de votre roman. J'en lis juste un petit extrait. Les anonymes qui le croisent, donc qui croisent Julien, ne se doutent de rien. Ils voient en lui un gamin franc-comtois comme les autres, pas le fils d'un génie de la volée amortie, du joueur au meilleur touché de tous les temps. Et il y a très souvent comme un leitmotiv dans le roman le fait que cet enfant, ce franc-comtois, il y a un côté franc-comtois un peu lourdeau, peut-être un peu rustique, vous vous amusez à rappeler cette identité régionale franc-comtoise, ce que je suis, ce que nous sommes tous les deux d'ailleurs des franc-comtois, amusement entre cette identité franc-comtoise et l'exotisme peut-être que représenterait les États-Unis, l'homme richissime, multimillionnaire qu'est John McEnroe, le père supposé.
Oui, ça fait le lien avec ce que vous disiez au tout début de l'émission sur le rapport à la télévision, aux rêves un peu faciles qui nous sont vendus par l'écran de télévision. Effectivement, Julien est dans sa chambre où il se sent enfermé. Là encore, c'est un des clichés de l'adolescence, notamment quand il regarde en quasi-direct la révolution roumaine. J'ai l'impression qu'à l'extérieur de sa chambre, de la Franche-Comté, de la France, il se passe des choses et que chez lui rien. Donc il y a ce rapport à l'enfermement, à la manière de s'en sortir par le rêve, le fantasme. Et c'est sûr que quand on voit les joueurs de tennis donc, qui réalisent des prouesses, qui sont observés, adulés par des dizaines de milliers de spectateurs, qui ont dans leur loge souvent les plus belles femmes, qui claquent des mains avec leurs bijoux. Voilà, c'est une terre de fantasmes, le monde du tennis, pour ce petit Julien.
Et effectivement, au moment de la révolution roumaine qui va balayer le fameux génie des Carpates, qui était Ceausescu, il est dans sa chambre, devant l'écran de télévision, et voici ce que l'on peut lire, cette rage d'être là, d'être le fils de McEnroe, et que ça ne serve à rien. À rien, puisque la vie, c'est courir dans tous les sens, défier les chars, renverser les régimes, et pas étouffer dans une chambre, pendant que d'autres abattent des murs ou défont des tyrans. Il a tout de même la volonté, et ça aussi, c'est un des thèmes du roman, Arnaud Friedman, c'est que votre jeune héros, Julien, il veut être utile, il se pose la question, mais à quoi ça sert d'être... à quoi ça sert d'avoir un père célèbre? Il veut être utile, il veut aussi trouver sa place dans cette société.
Il cherche à trouver sa place dans la société, il cherche à trouver sa place dans la cellule familiale qui s'est inventée, c'est-à-dire qu'il rêve de s'inventer un palmarès supérieur à celui de son père, ce qui, à l'époque, c'était dans les années 80-90, John McEnroe était un de ceux qui avait un des plus beaux palmarès, et on ne pensait pas forcément que ce serait possible d'en avoir de meilleurs, même si maintenant, avec... les joueurs de tennis qui sont apparus à la fin des années 2000, Federer ou Nadal, qui ont eu des palmarès bien supérieurs à McEnroe, mais ça c'est une autre histoire. En tout cas, au moment où Julien le pense, il ambitionne de devenir le meilleur joueur de tous les temps pour dépasser son père. C'est très classique, très oedipien. Voilà, il veut faire mieux que son père, il veut trouver sa place dans cette cellule familiale inventée, sans doute aussi attirer l'attention de sa mère sur lui, et il veut aussi trouver sa place dans la société, être regardé par les autres, être reconnu, lorsqu'il y a la révolution roumaine, il a envie de participer à la révolution roumaine pour renverser les tyrans. D'ailleurs, donc, il se rend compte que c'est un peu absurde, puisque personnellement, il le dit, Ceausescu lui a jamais rien fait. Donc voilà, il a cette envie un petit peu exaltée contre tous les adolescents de faire quelque chose, mais il met sur le même plan le fait de gagner Roland-Garros contre Lendl pour venger son père que de renverser le génie des Carpates ou le phare de la pensée. Je sais plus quels étaient tous les surnoms de Ceausescu, il en avait beaucoup.
Le tennis est un sport romantique, c'est le titre du dernier roman de notre invité Arnaud Frimann. Il est en notre compagnie jusqu'à 22h à bord de Wagon Livre. Je vous rappelle vers 21h50 le coup de cœur de notre libraire partenaire, Evelyne Levallois, de L'Autre Monde, au 42 Grande Rue à Avallon. Nous nous séparons quelques minutes et nous laissons place, Arnaud Frimann, ça va vous faire plaisir, nous laissons place à Patti Smith, voici « Because the Night ». Excellente soirée sur Radio.
Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
The Night, Patti Smith, c'est un choix et c'est aussi une pause musicale suggérée par le roman de notre invité Arnaud Frimann. Et le roman a pour titre Le tennis est un sport romantique. Arnaud Frimann, Because the Night, petit commentaire.
Oui, c'est alors comme le roman n'est absolument pas autobiographique, mais comme le personnage, j'ai découvert Because the Night dans une version techno remixée. Que je trouvais très bien à l'époque, que maintenant je trouverais plutôt horrible. Et un jour, j'ai entendu la vraie version, la version chantée par Patti Smith et écrite par Bruce Springsteen, qui est une chanson magnifique. Et j'ai eu envie justement de l'utiliser comme quelque chose qui accompagne la vie d'Hélène, c'est-à-dire qu'en 78, année à laquelle la chanson est sortie, elle la découvre et cette chanson de Patti Smith accompagne ses rêves autour de la figure du corps de McEnroe. Et puis, dans les années 92, elle la réentend quand elle sort de sa dépression. Donc voilà, l'évolution de la musique reprend un peu toute la parenthèse dans la vie d'Hélène où elle s'est vouée à l'attente de John McEnroe.
Vous avez parlé, Arnaud Freeman, du corps de John McEnroe. Bien, justement, parlons des corps, parce qu'il en est beaucoup question. Évidemment, le tennis suggère le meilleur emploi possible et emploi stratégique du corps. Les corps sont nombreux. Il y a les corps des champions, il y a le corps de Julien qui se développe, hein, sa musculature prend... on peut dire de mois en mois de plus en plus de puissance, le corps des sportifs, et puis je dirais qu'il y a aussi le corps, mutilé de Henri, qui ne peut pas avoir d'érection à cause d'un accident de moto et qui va devenir le compagnon d'Hélène.
Il y a aussi le corps d'Hélène auquel elle inflige qu'elle maltraite, puisque elle grossit, elle maigrit, elle ne prend pas soin d'elle. Donc il y a un rapport au corps négligé, au corps malade d'Henri, de son compagnon à la fin de sa vie. Et puis il y a évidemment ce corps des sportifs. Alors ne me faites pas dire que j'écris un roman érotique, mais il y a effectivement une érotisation des corps, pour employer une belle expression, et notamment dans le regard d'Hélène, ce qui l'intéresse chez McEnroe, c'est puisqu'elle elle le découvre quand il entre sur le court dans le premier tournoi qu'il va gagner en 1978 à Hartford. Elle est séduite par son corps, et juste avant, elle avait vu deux hommes plus anciens se s'affronter. Elle avait là encore des émois, donc il y avait toute une réflexion un peu amusée, mais pas tant que ça, finalement, sur voilà, l'obsession des corps quand on est adolescent, l'éveil à la sexualité, et il y a une scène de l'anniversaire de Julien qui illustre bien ça, puisque Julien est dans la pleine exubérance de son corps, il veut absolument enchaîner les petites copines.
Et les hormones, voilà, le travail
beaucoup, cas, hein. et comme il est extrêmement sportif, puisque même s'il n'a pas les dons de son père... Il est un honnête joueur de tennis franc-comtois, une première série franc-comtoise de tout à fait bon niveau. Et donc, il est, on imagine que c'est un beau gars, comme on dit, sur Franche-Comté. Et donc, les filles de son immeuble, les filles de son école sont toutes amoureuses de lui. Et il en joue avec une manière pas tout à fait respectueuse, mais comme c'est parfois le cas dans ces années d'adolescence ou de premier éveil à la sexualité.
On va pas trop en dire, mais en tout cas, le jour de ses 18 ans, Julien est comblé.
Il enchaîne les performances, pas tennistiques, mais d'un autre genre, mais qui sont racontées avec une certaine discrétion. Ne laissez pas penser aux auditeurs de Radion qu'il s'agit d'un roman de mœurs.
Puisque nous parlons des corps, Hélène, grâce à une copine, bon, Françoise, de trop en dire, c'est largement suffisant.
Il n'y a pas grand-chose à dire d'ailleurs sur Françoise.
Sur Françoise, il n'y a pas grand-chose à dire, mais au moins, elle a le mérite quelque part de faire bouger un petit peu les lignes affectives et sexuelles d'Hélène, qui rencontre un homme de 50 ans, et voici ce qu'on peut lire, 50 ans qu'il bouffe, qu'il pousse son estomac vers l'avant, qu'il chie, avait-elle pensé, et elle se doutait que ce n'était pas le genre de pensée qui aurait dû l'habiter. 50 ans qu'il se baffre, 20 ans peut-être qu'il engloutit la bouffe de sa femme, et dans quelques instants, ce ventre allait être sur le sien, l'écraser, remuer de manière disgracieuse. Et je ne prolonge pas l'intégralité de la lecture. Mais concernant Arnaud Freeman, le potentiel sexuel des sportifs, on peut lire sous votre plume, l'avantage, c'est le narrateur bien sûr qui dit, je crois que c'est Françoise qui dit ça,
Françoise,
Hélène,
dit ça.
Françoise dit l'avantage avec les sportifs, c'est qu'il baisait avec vigueur ce que le romantisme y perdait était amplement compensé par l'intensité physique qu'ils imposaient aux ébats. Eh bien, Arnaud Freeman.
Oui, alors j'ai beau jeu maintenant de vous avoir dit que j'avais fait un roman et vous me citez les deux phrases qui sont les plus.
Ah, mais je monte au filet.
Vous montez au filet. Voilà, je vais essayer de faire une volée gagnante pour me sortir de ce mauvais pas. Mais non, il y a un rapport d'Hélène. Encore une fois, sans psychanalyser le personnage, en tout cas, il ne m'appartient pas de le faire. Elle a un rapport au corps qui est tout à fait, qui est peut-être son plus gros problème. Elle a un rapport au corps qui est perturbé. Effectivement, quand elle rencontre un homme avec lequel elle s'apprête à passer une première nuit, elle a des pensées très, très, qui ne devrait pas être celle d'une femme amoureuse ou qui se prépare à rencontrer ou à connaître un homme, voilà, comme c'est prévu que ça se passe normalement. Et à l'inverse, elle fantasme sur la figure rêvée de ce joueur de tennis. Et là encore, on revient au sujet principal, c'est-à-dire que la télévision nous montre des corps de sportifs parfaits qui sont totalement aseptisés puisqu'ils n'ont pas d'odeur, ils n'ont pas de défauts, puisqu'on les voit uniquement à la télévision avec des ralentis, des gros plans sur les muscles, sur les cuisses. On le voit, c'est encore accentué maintenant puisqu'on a des gros plans hyper ralentis où on voit tout le détail des muscles qui se développent. Donc là, il y a vraiment une érotisation des corps, mais une érotisation des corps qui est c'est du papier glacé, c'est-à-dire qu'il y a pas de chair, et c'est ce que refuse Hélène. Elle refuse la chair dans son choix d'un compagnon qui est quelqu'un justement d'impuissant. Il y a aussi un aveu très clair de sa part que ce qu'elle cherche n'est pas ça. Elle cherche à être amoureuse de l'image parfaite de John McEnroe.
Et Hélène, bon, elle termine sa vie avec un compagnon qui donc ne peut pas avoir d'érection. Et alors, on a envie de se moquer et de rire, c'est qu'il mesure 1m67. Donc tout est dans la petitesse chez ce pauvre homme.
Tout est dans la petitesse. C'est quelqu'un de très gentil. Et c'est le compagnon qu'elle offre parce qu'il est inoffensif par rapport à l'image fantasmée de McEnroe, c'est-à-dire qu'elle réussit à avoir une vie de couple, mais sans tromper John McEnroe. C'est sa forme à elle de fidélité.
En tout cas, très bonne volée gagnante, Arnaud. Une dernière escale musicale dans notre rendez-vous littéraire. Alors, j'ai pensé que l'on pourrait se faire plaisir et écouter un ancien tennisman qui s'est reconverti dans la chanson. Ben oui, vous l'aurez deviné, il s'agit de Yannick Noah, et on va l'écouter dans un titre... No More Fighting, la voix des sages, Yannick Noah, donc qui remporta Roland Garros en 1983, et ça fait 30 ans. Bonne soirée sur Radio, on se retrouve dans quelques minutes avec Arnaud Friedman, car il paraît que le tennis est un sport romantique.
Quand je ne crois plus à mes rêves, je vis ceux des autres. Quand moins souvent mon poing se lève, que je ne suis plus des vôtres. Quand j'oublie ce que je crois, il me redonne la foi. Alors j'entends la voix des sages, et je chante avec eux. Regarde ce détour. Je préfère ne pas savoir et que mon âme devient sourde. Quand j'oublie ce que je vois, il me remontre la voix. Alors j'entends la voix des sages, et je chante avec eux.
Yeah.
Retour à bord de Wagon Libre, après Yannick Noah, on reste dans l'univers du tennis avec notre invité Arnaud Friedman, qui n'est pas tennisman, qui est romancier et qui est ce soir l'invité de Wagon Libre pour un roman sorti au mois d'août dernier, c'est cela Arnaud ?
28 août.
28 août, roman intitulé « Le tennis est un sport romantique » que vous trouverez chez vos libraires et c'est aux éditions Jean-Claude Lattès. Arnaud Friedman, je vais vous demander, si vous le voulez bien, de nous lire un extrait de votre roman pour les auditrices et auditeurs de Radium.
Je vais vous lire le chapitre intitulé « Décembre 1990, abattre le mur », page 91 du roman, qui présente les routines d'entraînement de Julien. Comptez, à l'entraînement, le nombre de coups frappés sans faire de faute. Se concentrer, s'alléger quand l'autre déclenche sa frappe. Comptez. Se concentrer sur le placement des pieds, la poussée vers l'avant, le transfert du poids du corps. Être déjà en position de replacement. Comptez. Plissez des yeux pour accompagner la balle en espérant qu'elle reste à l'intérieur du cou, tout en atterrissant le plus près possible de la ligne. Comptez. Le nombre de coups que frappent les autres à l'entraînement, en espérant qu'ils ratent, pour que ce soit enfin son tour. Comptez sans raison le nombre de fois où la balle passe par-dessus le filet. Comptez. En match. Les points qui séparent du jeu, les jeux qui séparent du set, le set qui sépare du match. S'interdire d'anticiper les points pas encore gagnés, les jeux pas encore gagnés, les sets pas encore gagnés, les matchs pas encore gagnés. Anticiper quand même. Se concentrer sur chaque point. Impossible. Compter. S'assurer que l'adversaire ne se trompe pas, n'oublie pas un point. Montrer à l'adversaire qu'on maîtrise le cours du match, qu'on ne lâchera rien. Compter. Dans le clubhouse, dans la voiture des parents de Damien, dans le vestiaire, pendant le match. Compter tout le temps. Compter les points que permettra d'engranger chaque match, chaque victoire, chaque performance. S'interdire d'anticiper les points pas encore gagnés, le classement d'année d'après, la progression. Mais anticiper quand même. Avoir le bras qui tremble au moment de conclure, à cause de la promesse des points gagnés. Ne pas gagner. Compter les points perdus. Compter. Le nombre de respirations entre chaque point, le nombre de la fois où la balle rebondit avant d'être lancée. 11. Ne pas se demander pourquoi. C'est comme ça depuis que Julien joue, il fait rebondir sa balle 11 fois avant de servir. D'autres, qui battaient son père, s'arrachaient méthodiquement les cils, chacun son truc. Compter. Les pulsations cardiaques après un long échange, les pulsations cardiaques après un entraînement, les pulsations cardiaques avant un match, celles qui mesurent la peur. Le nombre de respirations lentes qu'il faut pour les réduire, et réduire du même coup la peur, ou l'impression de la peur.
Merci Arnaud Friedman, un extrait de votre dernier roman, Le tennis est un sport romantique. Eh bien si, ici il était beaucoup question de compter, eh bien moi je dis lire, relire le roman et découvrir le roman de notre invité. À quoi ça sert d'avoir un père célèbre ? Début de réponse dans votre roman. Arnaud Friedman, quels sont vos projets ?
Eh bien, l'apparition de ce livre d'édition Lattès m'a donné un petit coup de feu. J'adore écrire, j'écris tout le temps, mais effectivement, le contrat prévoit plusieurs romans, et donc là, je travaille sur un projet en lien avec mon éditrice, et qui devrait peut-être paraître, je ne sais pas, dans 2 ans ou 3 ans, on verra à quelle vitesse j'avance, mais effectivement, je suis dans pleine écriture d'un roman. Là, je ne vous donnerai pas le titre, puisqu'il faut garder ses petits secrets.
Absolument, absolument, Arnaud Friedman. Je disais au début de notre entretien combien l'adjectif cinématographique apparaissait à plusieurs reprises, en tout cas dans les premières pages de votre roman. Une adaptation cinéma serait par exemple la bienvenue, reconstituant les années 80-90. Ça pourrait être un film en tout cas extraordinaire pour les gens qui aujourd'hui ont 40-50 ans, et les plus jeunes aussi.
Ça pourrait, ne me faites pas rêver. Voilà, il y aurait sans doute des questions qui intéresseraient beaucoup les avocats sur le droit de diffusion des extraits de matchs et des chansons. Mais effectivement, plus sérieusement, j'essaie d'avoir une écriture assez imagée, qui colle aux images et qui est... On pourrait décrire comme cinématographique. J'essaie de rendre assez visuel chaque chapitre.
En tout cas, merci Arnaud Friedman de nous avoir consacré un petit peu de votre temps avant de partir là, puisqu'il faut le dire, on a enregistré cette émission à Besançon quelques heures avant l'ouverture du salon Les Mots Doux, 12e édition cette année 2013. Merci à vous d'avoir pris un peu de temps pour répondre à nos questions. En tout cas, nous, on recommandera votre roman qu'on a beaucoup aimé, et j'espère que dans Lyon, il va connaître un vif succès. Je voudrais aussi, Arnaud Friedman, si vous me permettez, remercier Brigitte Béranger, votre attachée de presse, Emmanuel Alibert, et puis aussi remercier Laurence Barrère, qui nous ont aidé à nous retrouver et à permettre cette rencontre et l'enregistrement de cet entretien que vous retrouverez d'ici quelques jours en podcast sur le site internet de Radion. Et puis dans quelques secondes, le coup de cœur de notre libraire partenaire. Bon vent et à très bientôt pour le prochain roman dans Wagon Livre.
J'espère, et puis vous avez rappelé à plusieurs reprises que j'étais byzantin, j'en suis très fier, mais n'oublions pas que j'ai été iconé pendant 4 ans, de 1998 à 2002.
Merci Arnaud Freeman pour ces précisions, bon salon et à très bientôt pour un prochain livre. Merci encore Arnaud Freeman.
Merci à vous.
Comme chaque mercredi dans Wagon Livre, le moment est venu en fin d'émission de retrouver notre libraire partenaire pour le traditionnel coup de cœur. Et nous accueillons Evelyne Levallois. Bonsoir Evelyne.
Bonsoir à toutes et à tous.
Evelyne, deux coups de cœur minimum ce soir dans Wagon Livre. Premier coup de cœur.
L'échange des princesses de Chantal Thomas paru aux éditions du Seuil. Alors il s'agit d'un très beau roman historique, hein, ça se passe au 18e. Je dis roman historique, je ne dis pas fresque historique parce que finalement, ça se passe sur un temps très très court, 3 ans à peine, l'histoire de deux enfants princesses, qui ont 4 et 12 ans, qu'on va échanger, hein, c'est-à-dire qu'une princesse espagnole va aller épouser un jeune prince français, et une princesse française va épouser un jeune prince espagnol, le tout pour sceller une paix entre les deux pays, suite à une longue guerre. Cet échange de princesses est fait pour apaiser les tensions politiques, les princesses sont reçues très très dignement en grand faste à leur arrivée. Et puis, les intrigues politiques font que la paix est un peu moins recherchée, ces enfants rois n'accéderont pas forcément au pouvoir, et ces princesses, elles deviennent un peu encombrantes. Alors, il y en a une, on va la rendre, tout simplement, au pays d'origine.
C'est pratique. Hein.
C'est pratique. Ils le vivent un peu mal, hein, je te le cache pas, ils le prennent pas bien du tout. Donc, on la rend, l'autre, on la met dans un couvent, comme ça, on peut...
Ça, c'est la solution idéale aussi. Hein. Ah, on oublie les gens dans un couvent,
ça, c'est pratique,
traditionnel. Hein. Oui.
Ça, c'est vraiment très très pratique, le couvent, pour ça. Donc, ces princesses sont un peu mises au placard, hein, pour le dire joliment. Donc, ça se passe sur un temps très court. Le tout est écrit d'une écriture vraiment très très fine, très ciselée, très bien documentée. Mais surtout, cette documentation est au service du récit. Hein, donc, c'est une entrée historique vraiment passionnante sur le 18e, sur la condition des femmes aussi, même parmi les classes les plus hautes, dans les classes basse, souvent les femmes étaient considérées comme des esclaves. Dans les classes hautes, elles sont juste une monnaie d'échange. C'est charmant, n'est-ce pas, le 18e, vu comme ça?
Ah oui, 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 on est nostalgique, effectivement.
Chantal
L'échange
Thomas.
Des princesses, Chantal Thomas, et c'est un roman de cette rentrée littéraire 2013, et c'est aux éditions du Seuil.
Oui, et elle est en lice pour le Goncourt, j'espère qu'elle l'aura, parce que franchement, c'est un des très grands romans de cette rentrée.
Alors, on part vers d'autres horizons, avec un roman paru aux éditions de l'Olivier, un roman de Richard Ford qui a pour titre Canada.
L'auteur est américain, mais le titre s'appelle Canada. C'est l'histoire d'un ado, un certain Dell, dont le père est militaire en retraite. Il a une 40aine d'années, mais il ne sait pas bien faire autre chose que militaire. Donc évidemment, le retour à la vie civile est compliqué, difficile insertion. Et puis, il va de petit boulot, en petites affaires, petites escroqueries. Et puis, de fil en aiguille, bah, il embarque sa femme et il braque une banque. Les deux gosses sont dans la voiture, on braque la banque, ça tourne pas très très bien. Les jumeaux sont séparés, donc la fille, elle, va fuguer. Et ils ont 15-16 ans, les gosses. La fille va fuguer, et le jeune homme, l'adolescent d'elle, notre personnage, lui va se retrouver au Canada, d'où le titre. Chez un type pas très très clair, un ami lointain de la famille, qui va prendre soin de lui, qui va lui apprendre la petite délinquance aussi, hein. Mais ce Dell, finalement, c'est pas un méchant bougre. Il sait que ce type se sert de lui et que ce type est pas foncièrement honnête, mais c'est pas un vrai méchant non plus, donc il se satisfait de tout ça. Il nous raconte ça par la suite. Il y a vraiment deux temporalités très différentes, hein. La temporalité où il est avec sa famille, hein, la première partie, hein, où Dell grandit en famille et on voit cette famille qui se décompose au fur et à mesure, et la deuxième partie vraiment au Canada. Mais c'est un roman là aussi sur une temporalité très très courte, on est sur 6 mois à peine, hein, où il va passer de l'enfance à l'âge adulte de manière brusque, sans avoir jamais anticipé le fait que ses parents étaient des délinquants.
C'est Canada de Richard Ford, et la quatrième de couverture souligne la beauté de ce roman en disant qu'il est d'une puissance et d'une beauté exceptionnelle, et que ce livre signe le retour sur la scène littéraire d'un des plus grands écrivains américains contemporains. C'est aux éditions de l'Olivier. Pour ma part, je vous rappelle quand même quelques actualités de salon. Il va y en avoir peu cet hiver, mais je signale le salon du livre de Saulieu qui se tiendra les 2 et 3 novembre prochains à la salle Jean Bertin à Saulieu, avec comme invité d'honneur Régine Deforges, qui sera présente donc durant les deux jours pour dédicacer ses mémoires aux éditions Robert Laffont, mémoires regroupées sous le titre « L'enfant du 15 août ». C'est à Saulieu les 2 et 3 novembre prochains. Mercredi prochain, 30 octobre, à bord de Wagon Livre, on vous proposera le compte-rendu du Salon du Livre de Saint-André en Morvan. Un petit salon, mais on aura l'occasion d'entendre Marc Rozanski décliner l'actualité éditoriale des éditions de l'Armançon. On aura des nouvelles de Gadine, Barbara Moreau, qui n'a pas écrit depuis quelque temps, mais qui nous expliquera un petit peu ses prochains projets d'édition. Christian Flamand nous parlera de sa prochaine bande dessinée. On a une interview de François Rabas, illustrateur qui a créé sa propre maison d'édition à Sens, les éditions Senon, et qui fait paraître des BD. Enfin, un petit compte-rendu du Salon du Livre de Saint-André en Morvan, c'est au programme de Wagon Livre, mercredi prochain, à 21h, toujours sur Radion. Oui, oui, Evelyne est déjà un peu ailleurs, sur Radion, bien sûr, et puis l'émission est en podcast, quelques jours après sa diffusion sur le site internet de
Wagon Livre,
de Radion. On vous souhaite à toutes et à tous, mais c'est Wagon Livre, c'est Wagon Livre sur Radion, effectivement. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée. On vous remercie de votre fidélité et on retrouvera mercredi prochain notre fidèle libraire Evelyne Levallois, un peu moins étourdie, j'espère. Mais c'est pas grave, elle n'a pas dit de grosses bêtises, elle nous régale avec ses coups de cœur. Nous n'allons pas l'accabler ce soir. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de Wagon Livre la semaine prochaine à partir de 21h sur
Wagon Livre,
sur Radion. Merci, bonne soirée, au revoir.